Bienvenue à tous. International a le plaisir d'accueillir ce dimanche Mohamed El Baradei. Mohamed El Baradei, bonsoir. Alors, merci d'être là, parce que vous êtes assez rare dans les médias, et en particulier dans les médias francophones. Alors, vous occupez un poste clé pour la paix dans le monde, puisque l'Agence internationale de l'énergie atomique que vous présidez est au cœur de cette grave question pour l'avenir de la planète. Comment contrôler la prolifération nucléaire ? L'AIEA, donc, que vous dirigez depuis 1997, a d'ailleurs reçu, et vous aussi, par la même occasion, le prix Nobel de la paix en 2005. Alors, pour vous interroger avec moi sur ce plateau, Nathalie Nougued, bonjour.
Bonjour.
Donc, pour le journal Le Monde, et Bruno Daroux, de Radio France Internationale.
Bonjour.
Bonsoir à tous les deux. Mais d'abord, Mohamed El Baradei, un aperçu de la difficulté de votre mission à la tête de l'AIEA par Karine Barzégar.
Atomique, le cauchemar par excellence de Mohamed El Baradei. 25 ans que ce diplomate égyptien lutte contre la prolifération nucléaire. 25 ans de bons et loyaux services au sein de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA. Depuis 1997, il en est le patron, un poste de médiateur international plutôt complexe.
Si les parties acceptent de s'asseoir autour d'une table et commencent à parler de leurs soucis, ce sera un bien meilleur moyen d'avancer que de se demander qui va frapper l'autre le premier.
Son rôle, éviter la frappe nucléaire. Sur sa table, des dossiers sensibles, potentiellement explosifs. L'Iran, la Libye, la Syrie, la Corée du Nord. Tous soupçonnés de développer l'arme nucléaire. Du dialogue avec ces pays dépend l'équilibre du monde. Pour preuve, l'exemple irakien. 2002, Saddam Hussein est suspecté de détenir des armes de destruction massive. Mohamed El Baradei est propulsé sur le devant de la scène. L'homme est un négociateur, un vrai, un pur produit des Nations Unies qu'il a rejointe en 1980. Il a un allié, Hans Blix, chef des inspections de l'ONU. Ensemble, ils vont enquêter sur le terrain.
Nous sommes venus ici pour une seule et unique raison. Le monde veut avoir la garantie qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive ici, en Irak.
L'Irak nucléaire, les deux hommes n'y croient pas.
Aujourd'hui, nous n'avons trouvé aucune preuve de programme nucléaire ou d'activité nucléaire interdite en Irak.
Mais rien n'y fait. Washington attaque l'Irak, un échec pour l'AIEA. Alors Mohamed El Baradei redouble d'efforts contre les faucons américains. Premier dossier, l'Iran. 6 ans qu'il négocie avec Téhéran, sans grand succès. L'administration Bush l'accuse de manquer de fermeté. Le chef de l'AIEA serait de parti pris, son épouse est iranienne. Mohamed El Baradei dément. Son credo, rester calme, ne pas céder aux pressions politiques.
Je ne pense pas que nous soyons confrontés à un danger clair et imminent qui nécessite d'aller au-delà de la diplomatie.
Autre dossier, la Syrie et la Libye. Là encore, il est accusé de complaisance. Son point fort, sa connaissance du monde arabe. Son point faible, son appartenance au monde arabe. Ses détracteurs le surnomment même le pharaon. Il serait autoritaire, porté par son ego. Insolent, au point d'affronter Tel Aviv sur le nucléaire israélien. Faible, au point de laisser faire des dictatures dangereuses. Mais en bon diplomate, il compose, il s'adapte. Pour éviter la guerre, il joue à l'équilibriste sur l'axe du mal. Partisan du grand marchandage avec les États suspects, y compris avec la Corée du Nord. Ça hantise les proliférateurs nucléaires comme le docteur Khan, tout juste libéré de prison. Le père de la bombe pakistanaise a disséminé ses secrets, mettant la planète en danger. Dans l'histoire, rarement le nucléaire aura donné un Nobel de la paix. Pour Mohamed El Baradei, ce prix vient avec un lourd fardeau. Recommencer, encore et toujours, les mêmes réunions, les mêmes inspections, les mêmes négociations.
Alors Mohamed El Baradei, on l'a vu ces dernières années, quand l'actualité a retenu le nom de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il s'agissait essentiellement de la situation en Irak, en Corée du Nord ou en Iran, trois pays qui ont dû habiter vos rêves, ou plutôt vos cauchemars ces dernières années. Alors, Monsieur El Baradei, commençons, si vous le voulez bien, par l'Iran, avec une question assez directe. Selon vous, Monsieur El Baradei, est-ce que l'Iran essaye depuis plusieurs années, et aujourd'hui encore, de fabriquer une bombe atomique ?
Well, Xavier, it's,
c'est un processus d'enquête en cours. Il faut que j'explique que le problème iranien a deux aspects. Une partie technique, qui pour l'IAEA, c'est une enquête pour voir le périmètre du programme nucléaire iranien et de s'assurer que le programme n'a pas d'aspect militaire. Nous avons fait de bons progrès. Nous sommes responsables de vérifier le programme d'enrichissement qui est le plus inquiétant. Il y a encore quelques problèmes qu'il faut clarifier, comme les prétendues études qui ont été faites pour militariser ce nucléaire. Mais on n'y est pas encore. Nous n'avons pas encore la coopération nécessaire iranienne sur ce problème. J'ajouterai toutefois que nous n'avons pas d'informations pour l'instant que des études ont été couplées avec l'étude des matériaux nucléaires. Et nous n'avons pas non plus de preuves concrètes que pour l'instant, ils agissent pour militariser, les transformer en armes nucléaires. Vous savez, les renseignements américains l'année dernière ont fait une publication très claire disant que les Iraniens faisaient des études, mais qu'ils ont arrêté en 2003. Mais j'ai besoin de plus de transparence en provenance de l'Iran. C'est un point technique. Sur le plan politique, le problème, personne ne dit aujourd'hui l'Iran a des armes nucléaires ou va l'avoir demain en Iran. L'inquiétude de la communauté internationale, c'est que quelles sont les intentions à venir de l'Iran? Pour l'instant, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. C'est vraiment, il faut savoir analyser le risque, il faut construire la confiance, et c'est un problème qui doit être réglé par les États membres. Moi, je dis depuis un certain nombre d'années, la seule façon de construire la confiance, c'est par des négociations directes. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux maintenant de voir que Barack Obama, l'Américain, a décidé finalement d'aller faire des négociations directes sans préconditions.
Alors, Monsieur Albaradec, que pensez-vous justement de la déclaration du nouveau directeur des renseignements américains, Monsieur Dennis Blair, qui affirmait qu'il ne savait pas si l'Iran prévoyait de développer des armes nucléaires? Et selon Monsieur Blair, l'Iran n'a pas relancé son programme nucléaire militaire arrêté en 2003. Vous confirmez ?
Nous n'avons pas véritablement de preuves concrètes, petit a, qu'ils aient fait des études avant 2003. C'est ce que j'appelle l'Iran d'être plus transparent, de coopérer plus pour clarifier ces études de militarisation. Nous n'avons pas de données supplémentaires concernant une reprise après 2003 de ces études. Mais c'est la raison pour laquelle je dis, si un pays a des renseignements, nous devons avoir ces renseignements. Nous sommes ceux qui sommes sur le terrain. Nous devons pouvoir faire les vérifications. Et si on n'a pas l'information, on ne peut pas faire grand-chose. En Iran, l'Iran, comme tous les autres pays, c'est un grand pays. Et je ne peux pas juste me promener et renifler. J'ai besoin d'informations spécifiques.
Nathalie Nougared.
Monsieur Baradei, vous avez exprimé votre satisfaction de l'arrivée d'une nouvelle administration américaine. En quoi est-ce que ça va changer la donne, fondamentalement, dès lors qu'on entend, côté américain, l'analyse qu'il s'agit d'accroître l'offre de coopération aux Iraniens, mais aussi d'accroître les sanctions? Est-ce que cette plus grande carotte et ce plus grand bâton sont susceptibles de résoudre le problème de l'impasse sur ce dossier nucléaire?
Well, I hope, you know,
Nathalie, le problème, c'est un problème de construction de confiance. Il faut construire la confiance. C'est fondamentalement une question de sécurité au Proche-Orient. L'Iran construit cette technologie, je l'ai dit publiquement, tout d'abord comme une police d'assurance. Ils sentent que s'ils ont cette technologie, ils auront la puissance et le prestige. Et qu'ils auront, si vous voulez, une sorte de police d'assurance. Et si on fait ça pour la sécurité régionale, on ne peut pas le faire sans des négociations directes entre Iran et les États-Unis, tout d'abord. Comment construire la confiance? Il y a beaucoup de problèmes inclus. Ce n'est pas simplement un problème nucléaire, des accusations sur l'Iran, qui soutient des groupes extrémistes, sur les droits de l'homme en Iran. Tous ces problèmes doivent être mis sur la table. L'Iran est concerné parce qu'il fait partie de l'axe du mal. Les gens appellent à un changement de régime. Et des deux côtés, il faut s'asseoir à la table, mettre
prendre tout ce qu'on a sur la table et essayer de trouver un moyen de vivre ensemble.
Ça veut dire que les États-Unis, d'après vous, devraient donner des garanties de sécurité à la République islamique.
Absolument. Je crois que chaque pays, que ce soit une théocratie ou une démocratie, la survie du régime, c'est très important pour eux. Des garanties de sécurité pour l'Iran, pour la Corée du Nord, sont absolument nécessaires, au moins pour créer, si vous voulez, cet avant-goût, pour ne pas avoir besoin d'avoir accès à des armes nucléaires et ne pas avoir d'armes nucléaires au Proche-Orient. Eh bien, si on a du nucléaire au Proche-Orient, cette région va se transformer en boule de feu.
Si le président Obama se dit prêt au dialogue avec l'Iran, le président français Nicolas Sarkozy semble, lui, plus inquiet et plus dur avec l'Iran. Le président Sarkozy a parlé de progrès préoccupant de l'enrichissement de l'uranium iranien qui n'aurait aucune finalité civile. Ce sont les termes du président français. Qu'est-ce que vous pensez de cette différence d'analyse entre la France et les États-Unis ?
Je ne suis pas certain qu'il y ait une analyse différente. Je crois à nouveau que chacun fait son analyse du risque. Je crois que les États-Unis ont beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne l'avenir, les intentions futures de l'Iran. Pour la France, c'est la même chose. Mais c'est une question d'analyse politique. S'il y a une inquiétude, eh bien, il faut s'asseoir ensemble, en discuter de ces inquiétudes. J'ai aucun doute. L'Iran a dit qu'il voulait utiliser cette technologie, avoir cette technologie, parce qu'il voulait être autonome, parce qu'ils sont déjà depuis 20 ans soumis à des sanctions. Ils sentent qu'ils auront ainsi le rôle qu'ils peuvent jouer dans la région. C'est le pays le plus puissant de la région et veut être reconnu en tant que tel. Donc ils utilisent cette technologie pour pouvoir avoir cette reconnaissance de leur rôle dans la région et s'assurer qu'ils ne seront pas attaqués. Si à l'avenir ils vont développer une arme nucléaire ou pas, il faut travailler avec eux pour être certain qu'on crée les conditions pour que l'Iran sera intégré comme part de la communauté internationale et ne cherchera pas des armes nucléaires.
Alors, que pensez-vous d'un rapport qui a été publié il y a quelques jours par un institut américain, l'ISIS, qui affirme que l'Iran pourrait être à court d'oxyde d'uranium prochainement et donc finalement serait incapable de poursuivre ses activités de traitement et d'enrichissement du combustible nucléaire. Ce rapport de l'ISIS d'ailleurs se base sur un rapport du mois de novembre, je crois, produit par l'AIEA, qui dit que l'Iran aurait consommé près des trois quarts des stocks d'uranium que l'Iran avait acquis d'ailleurs du temps du Shah dans les années 70. Est-ce que vous pensez que ce rapport est crédible ?
Il y a beaucoup d'hypothèses émises par beaucoup de gens et l'Iran a de l'uranium enrichi mais pas beaucoup, pas suffisamment pour avoir une arme nucléaire. Mais il y a beaucoup de en Iran. Pour que l'Iran développe des armes nucléaires, ils doivent sortir du traité de non-prolifération. Ils doivent renvoyer les inspecteurs. Aussi longtemps qu'ils ont des inspecteurs sur leur territoire, ils ne peuvent pas enrichir l'uranium. Ils le font à un faible niveau.
Est-ce que ce n'est pas justement à l'AIEA de lever les si? Vous avez dit ici, si, 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 mais est-ce que ce n'est pas justement votre rôle d'aller voir sur place si l'Iran continue effectivement à enrichir de l'uranium, si les centrifugeuses iraniennes sont suffisamment puissantes et suffisamment nombreuses pour produire de l'uranium enrichi nécessaire à la fabrication d'une bombe? Est-ce que ce n'est pas votre rôle?
Tout l'enrichissement à faible niveau, tout l'uranium enrichi en Iran est sous vérification de l'AIEA. Ils ne peuvent rien faire avec ça. C'est un uranium pauvrement enrichi. Il y a des centrifugeuses, vous savez, il y a de l'équipement, mais qui sont sous observation de l'AIEA. Je peux vous dire aujourd'hui ce que nous avons, ce que l'Iran nous a déclaré, est sous les auspices de l'AIEA. Ils ne peuvent pas transformer en armement nucléaire. Mais comme je l'ai dit, toutes ces hypothèses doivent produire de l'uranium hautement enrichi, doivent militariser. Bien, tout ça, ce sont les intentions futures. Je peux vous dire simplement ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui va se passer demain, je ne peux pas vous le dire, malheureusement.
Je voudrais juste relancer sur le rapport dont je vous parlais, sur lequel vous n'avez pas vraiment réagi, parce que ce rapport, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si le manque d'uranium est avéré pour l'Iran, c'est-à-dire que ça pose un gros problème pour la production de nucléaire civil pour la production d'électricité, mais que ça ne pose pas de problème pour la production d'un programme nucléaire militaire et que donc ça renforce les soupçons contre l'Iran.
Well, Iran,
as we know, l'Iran, comme nous le savons, ils n'auront pas suffisamment de matières premières pour avoir de plus en plus d'uranium pauvrement enrichi. Mais très clairement, ils auront de l'uranium pauvrement enrichi en quantité suffisante, comme beaucoup d'autres pays, pour être capable de le convertir en uranium hautement enrichi. Ce n'est pas le problème d'en avoir pas assez. S'ils continuent pendant les années qui viennent, ils auront suffisamment d'uranium pauvrement enrichi qui pourra être transformé en quantité significative d'uranium hautement enrichi. Ce n'est pas là le problème. Mais Bruno, le problème ici, il y a beaucoup de pays qui ont de l'uranium pauvrement enrichi. Beaucoup de pays font de l'enrichissement. Pourquoi sommes-nous inquiétés seulement par l'Iran ? Parce que dans beaucoup de communautés internationales, les pays du communauté internationale ne croient pas les intentions à venir de l'Iran. Pourquoi est-ce qu'ils n'y croient pas ? C'est la question dans laquelle il faut creuser. Et il faut nous rassurer, savoir même si l'Iran a des capacités d'enrichissement et qu'il ne l'utilise pas pour des visées militaires, il faut beaucoup d'efforts pour ça. Il faut des efforts politiques, économiques et de sécurité, comme Nathalie l'a dit. Et je n'aime pas, Nathalie, ce que les gens disent sur le bâton et la carotte. Je crois que c'était le sous-secrétaire d'État Pickering qui a dit il ne faut pas utiliser le bâton et la carotte, parce que ça, c'est bon pour les ânes. Et ça, ce n'est pas une façon de traiter des nations fières. La diplomatie doit utiliser des incitatifs et de la pression, mais il ne faut pas utiliser le bâton et la carotte.
Nathalie Nougaren.
Combien de temps reste-t-il, à votre avis, pour que la diplomatie opère et réussisse ? On a depuis 6 ans des efforts diplomatiques sur ce dossier, sans résultat pour l'instant. Une nouvelle administration américaine. Certains disent que l'Iran aura assez d'uranium faiblement enrichi dès cet été pour éventuellement se doter de matières fissiles pour une arme nucléaire. Combien de temps reste-t-il à la diplomatie ?
L'IEA, nous regardons ce qui se passe avec les matériaux nucléaires. Nous ne savons pas ce qu'ils font en termes de militarisation, c'est-à-dire fabriquer les composants d'une arme. Ce n'est pas une partie de notre mandat. Mais si je m'en tiens au rapport des services de sécurité américains, et ils ont encore 2 à 5 ans pour pouvoir développer des armes nucléaires. Je ne peux pas le vérifier parce que je ne vois pas la militarisation. Parce que ce que je crois, c'est que nous avons suffisamment de temps pour la diplomatie. La diplomatie n'a pas réussi, Nathalie, mais elle n'a pas réussi parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas véritablement eu de dialogue direct entre les États-Unis et l'Iran.
Mohamed El-Baradei, au moment où les États-Unis se disent prêts à dialoguer avec l'Iran, les Iraniens viennent de lancer un missile à longue portée. C'était début du mois de février. Quelle est votre interprétation du lancement de ce missile iranien ?
Les Iraniens disent bien entendu qu'ils veulent démontrer leur avance dans le domaine de la science et de la technologie et qu'ils utilisent un satellite. Bien sûr, chaque partie avant de négocier essaye de montrer ses muscles, montrer quelle est la puissance de chaque partie. Mais toutes ces questions, tous ces problèmes doivent être mis ensemble, doivent être discutés, débattus, Xavier. Et il faut absolument trouver une solution. La solution, à l'évidence, n'est pas bombarder l'Iran, comme je l'ai dit, ou continuer à avoir cette suspicion. Il faut mettre un terme à tout ça.
C'est lié à la campagne électorale en cours en ce moment en Iran, vous pensez, le lancement de ce missile ?
C'est très possible, c'est une des complexités. Bien sûr, nous allons avoir des élections en Iran en juin. Bien sûr, il y a différentes factions. On ne peut pas toujours stéréotyper l'Iran. Il y a beaucoup de positions différentes en Iran. Je dis toujours, l'Iran n'est pas comme un pays arabe où il y a d'ordinaire un homme fort qui peut décider de ce qui se produit. En Iran, il y a beaucoup de centres de pouvoir, comme nous le savons maintenant. Il y a beaucoup de concurrence entre des modérés, des conservateurs. Et ça fait partie de la complication des politiques intérieures en Iran, c'est ça. Et bien sûr, nous avons une nouvelle administration aux États-Unis qui est toujours en train d'analyser sa politique pour l'Iran.
Merci Mohamed El-Baradei. On se retrouve dans un petit instant après une pause. À tout de suite.